Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 33e épisode, épisode numéro 32. Nous sommes le 17 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefèvre. Bonjour Arnaud Lefèvre, qui êtes-vous ?
Bonjour Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je fais en ce moment beaucoup d'infra et sinon en temps normal un peu plus de développement.
Voilà. Et je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis un anime.
Vous êtes un personnage de fiction. Si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, parce que vous n'avez que l'audio, allez faire un petit tour sur YouTube rapidement. Je suis aussi accompagné de Alexandre Balme. Bonjour Alexandre Balme, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Alexandre Balme. J'ai créé une boîte qui fait du PHP qui s'appelle Banois. Donc voilà.
Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? C'est le moment. C'est ton moment.
On fait de l'expertise en PHP. Et on est spécialisé sur tout ce qui est amorçage, pivot de projet, que je te retourne ta dette technique et j'essaye de faire quelque chose avec.
D'où les tweets de rageux de temps en temps sur tes clients qui ouais je comprends. Eh bien,
moi j'ai toujours pensé que Vanois c'était une pépinière en fait.
Il y a un peu de ça. Ça c'est le pivot, tu vois, qui arrive petit à petit, quand tu mets des sous de côté, et puis tu prépares les choses, parce que tu sais bien que ça marchera pas, tu peux pas aller vers une agence, c'est que des problèmes d'être une agence. Donc voilà.
Et c'est aussi parce que Vanois, à une époque, il donnait des plantes pendant les conférences. Le goodies de Vanois, c'était des plantes.
C'est la classe.
C'est vrai. Avec un petit QR code.
Et en parlant de trucs classe, parlons de trucs pas classe. Voilà, c'est la transition magnifique pour ton premier lien. Ou DoorDash. Alors DoorDash, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le j'allais dire le Take It Easy, mais Take It Easy, ils sont morts. Le Deliveroo, c'est un Deliveroo, c'est très 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 commun aux US. Et ils viennent de dépenser 5,5 millions de dollars dans une campagne de pub. Cette campagne de pub vise à expliquer aux gens qu'ils ont donné à la charité 1 million de dollars, soit 5 fois moins que le budget de leur campagne de pub.
C'est beau, c'est...
Voilà, c'était un lien de Quentin Adam. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as mis ce lien, Quentin ?
Oui, c'est parce que j'adore l'économie d'ABC. Je la trouve tellement belle. C'est un monde merveilleux. Et du coup, les mecs font des donations d'un million. Et te colle 5 millions en pub pour dire, les gars, on est quand même des mecs bien. Je trouvais ça grandiose.
Voilà, c'était le taquet gratuit VC numéro 1 de ce podcast. Le taquet qui n'est pas gratuit puisqu'il coûte 5,5 millions de dollars. On passe à un lien que j'ai mis dans notre backlog hier. Et en fait, il y a eu plein d'actu publié aujourd'hui. C'est l'ANSSI qui a publié son rapport de sécurité annuel et qui fait état d'une augmentation de 255% des ransomware. Donc en gros, vous faites planter votre DB et il y a des gens qui vous disent « Je te rendrai ta DB si tu me donnes de l'argent ». Ça, c'est le...
Ou l'ensemble de tes laptops. Ouais, l'ensemble des laptops de la machine, les serveurs de fichiers Windows de la boîte, enfin la totale quoi.
Il y a plein de façons de faire. Il y avait eu, on en avait parlé dans un des podcasts, je crois, tu avais des outils qui targetaient tous les Mongo et tous les Elastic qui étaient open par défaut à une époque. Et du coup, il y en avait encore plein sur Internet. Et du coup, tous ces trucs-là, il y avait une grosse campagne, tout s'était fait poney un peu salement. Et donc, nouveau rapport d'ANSSI, l'article que j'ai mis explique un peu, résume un peu ce qu'il y a dans le rapport. Le rapport est très bien fait, il est très pédagogique. Ils expliquent un peu les différents types d'attaques à la mode et j'ai trouvé ça assez cool. Ils parlent notamment d'attaques par supply chain, dont on parlera un peu tout à l'heure avec Arnaud. Ils parlent de ransomware et ils parlent de RAS, qui est un acronyme que je ne connaissais pas, RAS, le Ransomware as a Service. Donc, vraiment pour dire que c'est en train de se professionnaliser, entre guillemets. Ça devient de plus en plus facile de trouver des outils pour faire ça. Et c'est triste. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette semaine ou la semaine dernière, c'était l'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui était victime d'un ransomware. Alors, je ne sais pas. Quand on voit le budget des hôpitaux en ce moment, je ne sais pas si faire un ransomware sur un hôpital, c'est hyper rentable. À part pour faire chier le monde, tu vois, j'avoue que je ne comprends pas trop. Mais bref. Et donc, matin, sur Twitter, je vois un nouvel article sur Le Monde et toute une série de threads sur effectivement les ransomware avec des vidéos explicatives aussi. J'ai pas encore tout lu, ça, c'est tout frais, mais on vous mettra le lien.
Sur la partie hôpitaux, il y avait pas mal de... Enfin, pendant toute la pandémie, en fait, il y avait pas mal de cas comme ça, que ce soit en France ou ailleurs, de cas d'hôpitaux, en fait, qui ont été rendus plus ou moins inutilisables côté info, parce que, justement, ils étaient ransomware... Enfin, tous leurs DSI étaient sous le contrôle d'un ransomware. Donc, compliqué.
Ouais, ça tape beaucoup sur les RDP, les Remote Desktop Protocol, c'est les trucs qui permettent de la prise en main à distance. Ça attaque beaucoup par ça, apparemment.
Ouais, c'est ça. Puis ce que j'avais déjà vu, il me semble, c'est que les hôpitaux ont parfois un budget assez serré et qui, du coup, ont pas... Enfin, pour tout mettre à jour, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de travail, etc.
Les hôpitaux ont un budget serré, soit à un moment sur l'incurie sécuritaire dans les hôpitaux, faut arrêter de blâmer le budget. Les mecs font n'importe quoi full-time en sécurité. Dans un hôpital, tu mets une blouse blanche, tu t'assois devant un PC, personne ne pose de questions. Tous les mots de passe sont écrits sur des post-it collés à l'écran. Tu as accès à toutes les données patients. Je veux dire, ça, c'est pas un problème de budget, c'est un problème de culture. Dans la santé, les gens ne veulent pas utiliser l'informatique. Ça va, faut arrêter de déconner. C'est vrai.
Et on rappelle que quand tu es hébergé dans un hôpital, ton application est certifiée hébergement de santé.
Oui.
Par défaut.
Ah oui, par contre, ça, c'est le truc qui est magique. Tu prends un ordinateur, n'importe lequel, tu le mets dans un hôpital, n'importe lequel, et là, d'un seul coup, tu fais de la santé. Tu vois ? D'un seul coup, tu es sécurisé. Parce que comme il y a proximité de médecins, tu vois, et ben là, bam, ton PC, il est sécurisé.
Bon, alors, on tape beaucoup sur les hôpitaux, mais il n'y a pas que les hôpitaux qui ne sont pas sécurisés.
Les cliniques aussi.
Non, mais il y a plein de boîtes industrielles aussi. Ouais. Pas mal de techniques de sécurisation un peu à l'ancienne. Et il y a un blog qu'on met souvent en avant et que je remets du coup, qui est écrit par Geoffroy Coupry, qui s'appelle « La fin de la métaphore de la forteresse », qui est peut-être plus compréhensible aux anglophones. Moi, pour les francophones, j'aime bien dire que c'est le retour de la ligne Maginot, où tous les gens s'imaginent que j'ai un gros firewall. Du coup, tout ce qu'il y a derrière le firewall, c'est open bar. Et le jour où tu te fais percer ou le mec passe à côté, voilà, c'est terminé. Et il y a beaucoup de SI qui sont sécurisés comme ça et c'est une catastrophe. Et il y a un truc qui m'a rendu un peu triste dans le thread Twitter sur Le Monde, c'est l'ANSI, les pompiers de la sécurité. Et le terme pompier est hyper parlant parce que tu vas éteindre des feux. Et l'ANSI, c'est pas les pompiers, même si fatalement ils sont obligés de le faire. Le but du jeu, c'est de suivre au minimum les recommandations de l'ANSI pour ne pas se retrouver dans la situation où l'ANSI doit faire pompier. Donc ce serait bien si les SI et se mettaient à écouter un peu ce qu'on leur dit à ce niveau-là. Ce serait quand même pas mal.
Mais sur les hôpitaux, c'est assez marrant parce que moi, de ma formation, avant de faire du web, je faisais du réseau. Et on était allé visiter un hôpital pour voir comment c'était fait. Et tu vois, les conditions que tu décris avec les mots de passe et tout, c'était déjà un sujet sur lequel... et ce sera toujours un sujet. Derrière, ma femme bossait en clinique. Donc, c'est littéralement ça. Hein, tu prends n'importe quel personnel soignant, va se connecter avec les identifiants du médecin parce que le médecin refuse de toucher un ordinateur, etc. etc. Donc, t'as vraiment la totalité des clichés qui sont là. Et derrière, tu as effectivement le fait, en ce qui concerne Villefranche et puis le secteur lyonnais plus particulièrement, c'est qu'ils ont un niveau d'informatisation qui est vraiment important. Et du coup, la moindre petite pétouille, normalement, potentiellement, c'est la totalité qui peut partir n'importe où. Parce que vraiment, tout est sur les réseaux et tout ce qui est... ils poussent avec les interventions à distance, etc., etc. Donc, ils essayent vraiment de mettre en place des trucs comme ça. Mais malgré tout, personne ne prend vraiment conscience réellement des choses. Ou alors, ça reste dans le petit KGB informaticien. Et puis, les autres disent « on s'en fout, quoi ».
C'est donc, comme dans The Office, c'est les gens bizarres là-bas, les informaticiens.
C'est ça.
Ouais. Donc, je trouve que cette recrudescence des ransomware prouve un truc. C'est que la sécurité informatique, ça a changé. Il faut arrêter de croire qu'on peut hardener une espèce de vaisseau de guerre, qu'on va battle-tested, le truc a déjà fait deux guerres, ça va bien se passer, tout ça. La sécu, c'est de la modernité. Il faut mettre à jour. Pas annuellement, pas trimestriellement, à la semaine. Les failles, elles sont détectées chez les éditeurs. Les éditeurs poussent des mises à jour en rapidité. Il faut arrêter de croire que de dire la mise à jour 2018 est passée, on est bien, tu vois. Il faut arrêter de faire des projets mise à jour sur 10 000 ans. La mise à jour, ça doit être rapide, ça doit être fluide. Et c'est la seule solution de protection aujourd'hui. Il faut arrêter de croire que le passé te sécurisera. C'est pas vrai. Et ça, c'est vrai sur Windows, c'est vrai sur Debian. Hein,
à côté de ça, on bosse avec une boîte en ce moment et c'est leur transporteur. Toute la logistique s'est fait hacker. Donc, ils sont revenus à l'état de la feuille papier-crayon, vas-y que je te gère du document Excel, etc. etc. Et ils en ont pour 4 mois. Donc derrière, en plus, non seulement ils se font hacker eux, mais t'as toute la logistique qui est derrière en termes de développement, avec tous ceux qui se connectaient là-dessus, qui doivent changer les devs pour pouvoir dire, bah maintenant on va envoyer des fichiers CSV, parce qu'ils ne sont plus capables que de traiter du fichier CSV, quoi. Donc, et tout le monde dit, depuis des années, oui, leur logique informatique, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu machin et tout, mais non, y a pas de prise de conscience, quoi. Donc voilà.
Tristesse.
Il y a du boulot.
Ouais. Arnaud, tu as mis un autre lien sur le sujet, podcast Pas Limite Sécu. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, alors ce podcast est sorti en octobre, je crois, 2020, et c'est une personne qui revient sur un retour d'expérience. Alors c'était, il me semble, une personne qui était dans une DSI à Marseille ou un truc du style, qui s'était fait avoir par un ransomware, et du coup c'était une DSI qui était interconnectée avec plusieurs autres services publics, il me semble. Donc ils ont dû gérer toute cette partie là éviter que ça se propage trop, etc., etc. Donc c'était vraiment sympa comme explication, sans pour autant blâmer en fait la personne ou autre. Il expliquait juste comment ils en sont arrivés là, en fait, et de par le fait qu'ils avaient peut-être pas bien mis à jour, ce genre de choses, quoi.
C'est important aussi d'avoir une blameless culture quand tu veux implémenter des trucs comme ça, ne pas blâmer les gens quand il y a des accidents, mais vraiment d'avoir une démarche proactive et pas de dire « Ah, c'est sa faute, c'est mal », mais dire « Bon, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne réarrive jamais ?» et rester dans le positif dans ces cas-là.
Ouais, puis du coup, comment est-ce qu'on fait pour réparer le sujet là tout de suite maintenant? Parce qu'en général, ça prend pas 2-3 heures, ça prend quand même plusieurs semaines, si ce n'est plus, quoi.
Yes. Ok. Si ça vous va, on passe au lien suivant qui est aussi un lien sécu. On va faire un petit moment sécurité. Et là, dans le rapport de l'ANSSI, il parlait des supply chain attacks. Et donc, c'est un lien qui explique un peu ce que c'est. C'est un lien d'Arnaud Lefebvre.
Yes. Alors, ce que c'est exactement, je ne sais pas si ça l'explique clairement.
C'est qu'il peut arriver, en tout cas.
Ouais, voilà, la supply chain attacks. Alors, je ne sais pas comment trop la définir de mon côté. Ce serait plus un truc genre... Vous avez un acteur en fait qui compromet un endroit de votre chaîne, par exemple, dans ce cas-là de dépendance, et du coup sans vraiment vous en rendre compte, vous installez en fait cette dépendance qui est très loin en fait dans votre arbre de dépendance, sur laquelle vous n'avez pas la main.
Souvent c'est des dépendances transitives, genre une dépendance de votre dépendance ou une dépendance de votre dépendance. Voilà. Enfin, c'est vraiment
c'est ça. Et là, dans ce cas-là, en fait, ça, c'est un chercheur en sécurité qui fait du bug bounty, a priori. C'est-à-dire, il cherche des problèmes de sécurité ou des bugs pour aller remonter aux entreprises afin de recevoir une récompense. Globalement, il s'est penché un peu sur le sujet des dépendances des différents dépôts, NPM, Python avec PYP, Maven, etc. Et il s'est rendu compte lors de ses recherches que pour NPM par exemple, si jamais, alors il me semble que c'était plus propre à Artifactory peut-être dans le cadre de NPM, mais bon, il y a d'autres package managers qui avaient aussi des problèmes en ce sens-là, qui lorsque vous utilisiez en fait une dépendance privée et que la même dépendance existait avec le, enfin qu'une dépendance avec le même nom pardon existait avec le même nom, voilà, ça sur un dépôt public, et ben en fait la dépendance publique était téléchargé en priorité par rapport à la privée. Ce qui fait qu'il a juste en fait à chercher des différentes dépendances sur des dépôts publics, GitHub, enfin des dépenses privées sur des dépôts publics GitHub de ces éditeurs-là pour trouver des noms en fait et les publier lui-même sur en l'occurrence NPM. Et en fait, il a réussi en fait à ce que cette dépendance publique soit utilisée à la place de la dépendance privée et donc à exécuter en fait du code au sein des infrastructures de certaines entreprises. Et dans ces boîtes-là, en l'occurrence, il y a entre autres Microsoft, Apple, PayPal, Shopify, Netflix, Yelp, Tesla et Uber. Donc on n'est pas sur des petites entreprises, on est quand même sur des très gros, très grosses boîtes. Hein. Et du coup, bah, il démontre en fait que c'est peut-être pas qu'un problème de sécurité, là, c'est aussi en fait un problème de logiciel en fait, parce que ça ne devrait jamais en fait faire ça. Ça devrait plus Le logiciel en fait en soi est un problème là en l'occurrence. C'est le package manager qui est biaisé. C'est pas tant
qui préfère le public au privé.
Voilà,
en c'est priorité. Ça. Ouais. Et donc
c'est un peu le problème en fait. C'est que là le problème n'est pas spécialement sécurité dans le sens il faut rajouter je sais pas des checkouts. Là c'est le problème de comment on appelle ça de conception. Voilà, pardon.
C'est hyper intéressant parce que ça montre que tu peux avoir des problèmes de sécu à tous les niveaux. C'est pas juste un truc proactif où il faut prendre les métaphores habituelles et dire je vais mettre un firewall comme ça les gens pourront pas passer mon firewall. Ça va plus loin que ça et c'est une question de processus aussi, c'est une question de conception, c'est une question de la sécurité à tous les étages. Genre ne pas, par exemple, mettre un screenshot public avec une dépendance privée en l'occurrence, parce que ça donne des informations aux gens et la sécurité, c'est des choses. Enfin, dans le rapport d'Annecy, ils expliquent que tu as pas mal d'attaques qui se préparent énormément en amont, où les gens passent beaucoup de temps à avoir des informations pour que ce soit encore plus pertinent. Et du coup, ça fait partie d'un type d'information que tu ne devrais pas nécessairement leaker. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment une démarche. On le dit souvent, la sécurité, c'est un process. C'est pas quelque chose que tu fais une fois et après tu dis c'est bon. Un processus, ça veut dire qu'il faut penser à la sécurité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas un truc que tu fais une fois et tu dis c'est bon.
Après, là, il y avait aussi quelques petits. Bon, après, ce qu'il a utilisé pour échapper justement au firewall, une fois que la dépendance en fait, était téléchargée, plutôt que de faire des requêtes vers des serveurs, par exemple pour HTTP ou autre, il a utilisé le DNS exfiltration qui globalement permet en fait d'exfiltrer de la donnée en utilisant des noms de domaine. Enfin, en l'occurrence plutôt des sous-domaines, c'est-à-dire ils contrôlent un domaine genre attacker.com et en faisant des requêtes en fait DNS avec un sous-domaine je sais pas buildserver.attacker.com ou autre, il est capable en fait d'exfiltrer la donnée, de savoir quelle machine en l'occurrence a pu exécuter ce code-là et potentiellement même en fait juste récupérer la donnée sur le système et pareil utiliser cette méthode-là pour sortir de la donnée un peu plus intéressante quoi. Et le truc était, enfin ce que j'ai trouvé marrant aussi au tout début, je me suis dit mais les log files en fait par exemple dans le cadre de npm t'as un paquet de log.json qui te log ton fichier, ta version, même parfois donc l'URL de téléchargement, mais bon ça change pas trop, et surtout l'intégrité un code SHA-512 ou autre, un hash, qui te permet de vérifier que c'est bien cette dépendance-là. Mais le problème, c'est que quand tu mets à jour ta dépendance, c'est pas utilisé, puisque du coup, tu cherches à la mettre à jour, donc tu peux pas vérifier l'intégrité d'un truc que tu connais pas encore. Et c'est là que le problème en fait survient, c'est pas tant à l'installation d'une dépendance classique, c'est plutôt lors des mises à jour, quand tu mets à jour ta dépendance, et c'est ça qui est encore plus... Un peu plus triste, parce que imaginons si t'as jamais, il faudra en fait que tu vérifies toutes les mises à jour. Si t'as vérifié qu'une version X sans vérifier les versions suivantes, c'est loupé quoi. Donc voilà.
Alex, tu as un avis là-dessus?
J'ai vu passer des trucs par rapport à Composer, donc dans l'écosystème PHP, c'est assez simple. On en a un seul de package manager, donc qui est globalement utilisé. Ça parlait essentiellement des espaces de noms, justement par rapport par opposition avec NPM. Donc et de la simplicité qu'on avait derrière, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10 paquets qui finalement s'appellent HTTP client, mais l'espace de nom vient nous garantir que on utilise bien ce qu'on veut et tout, donc ce qui fait que c'est plutôt cool à utiliser pour nous. Au moment où ça a été conçu, Composer, il y avait énormément de package manager à côté, on n'avait rien en PHP. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été bien faites dès le début. Et en l'occurrence, tous les mécanismes d'autoload via repository privé, via surcharge de fichiers, etc., etc., sont gérés. Donc, on n'a plus que le problème de qu'est-ce qui se passe dans nos dépendances, de quoi dépendent les dépendances directes, etc., etc., et potentiellement les mêmes problèmes qu'ailleurs, quoi. Mais, par exemple, on a toujours eu un fichier composer.lock pour pouvoir locker nos composers. On n'a jamais eu de débat à ce niveau-là. Et pour le coup, ça se passe plutôt bien parce que l'autoloader qui est construit derrière, il est quand même sacrément costaud, quoi. Donc, voilà.
Ouais, c'était des dépenses qui sont bien dans un dépôt spécifique avec ta boîte, etc. Ouais, là, ça aide pas mal, contrairement à NPM, il y a le souci, quoi. Après, je sais pas, sur Composer, est-ce que, enfin, c'est une question là qui n'a peut-être rien à voir, mais est-ce qu'il y a autant de dépendances, par exemple, que sur NPM? Genre, dans le sens où t'installes une dépendance un peu, genre, je sais pas, genre Symfony, est-ce que tu te retrouves à pool 1200 autres dépendances ou pas du tout, quoi?
Non, pas vraiment.
Okay.
On n'a pas les petits paquets rigolos JS, ouais, voilà, pour ça. Savoir odd, even, etc. etc. Donc, après, on a toujours ceux qui sont amusés à faire des pads ou des trucs comme ça pour pouvoir rigoler un peu. Mais il n'y a pas vraiment ce truc-là. Et effectivement, le fait de prendre Symfony, c'est intéressant parce que Symfony a lancé pas mal de trucs à ce niveau-là. Donc, en fait, quand tu prends du Laravel, tu dépends des composants Symfony. Quand tu prends un paquet de choses, t'as ces dépendances-là. Et en l'occurrence, l'approche de Symfony, c'est plutôt on refait. Donc, il y a des grands débats autour de ça. Mais ils n'aiment pas trop dépendre de ce qui tourne autour. Ils aiment bien avoir les mains, voilà, gérer leur sauce, quoi.
Ok, ça se comprend.
Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Après, communautairement, c'est autre chose. C'est un autre débat.
Ouais, c'est l'importance de certaines fondations, type les fondations Eclipse par exemple. Quand tu voulais rentrer dans le projet, tu avais un gros audit sur toutes les dépendances. Et là, c'était plus pour des raisons d'IP, de droit, etc. Mais j'imagine qu'ils faisaient aussi un audit de sécu dans la foulée et ils te certifiaient, entre guillemets, tout ton circuit de dépendance. Je trouvais ça assez intéressant dans l'esprit.
Mais on a des plugins Composer pour pouvoir justement dire est-ce que t'es pas en train d'installer quelque chose qui a des failles qui sont connues, est-ce que tes dépendances sont à jour ou pas, les conseils justement sur les, en tant que mainteneur, on peut dire ah bah tiens, moi je te conseille d'utiliser tel paquet, et donc gérer ces conseils là de la même façon. On a des plugins qui font des checks de licence, on a, voilà, donc à ce niveau là moi je le trouve plutôt plutôt bien fait, quoi, ce Composer.
Ok.
En vrai, il est plutôt bien, Composer, il fait son boulot, il avance bien, il n'est pas tout à fait assez tunable, enfin, c'est pas Gradle, quoi, mais...
Ouais, rien,
globalement, sur la gestion de dépendance, il avance, quoi. C'est pas le pire qu'on ait, quoi.
Alright, on passe au lien suivant, c'est un tweet thread assez rigolo, par Quentin.
Ah, c'est pas moi qui ai fait le tweet thread, c'est moi qui l'ai... C'est moi qui l'ai linké. Alors en fait, c'est...
C'est juste que si je dis le nom du bonhomme, je vais l'écorcher, ça va être un cauchemar. On va l'appeler Boris. Après, il a un nom de famille, si je le dis, ça va pas le faire.
C'est-à-dire que le mec vit à Amsterdam. En fait, c'est le fondateur de The Next Web. Et du coup, il s'appelle Boris Verhulzen van Zanten. Et là, je pense que je vais massacrer son nom. En fait, il a fait un truc assez drôle. Il a été codé un petit truc où globalement, à chaque fois qu'il reçoit un spam de gens qui lui disent alors en fait je tiens une boîte machin, mais j'ai l'argent est dans une banque et il faudrait que vous m'aidiez machin, et du coup il faudrait que vous fassiez un transfert de banque. Vous voyez, ce genre de scam complètement pourri. En fait, le mec répond de façon très gentille. Ah bah oui, tout à fait, je vais vous aider. Forwarder ce mail à Bill at tac et déléter mon email. Et comme je vais changer de job bientôt, mon adresse email sera pas gérable. Par contre, Bill, il est senior partner dans la boîte et il va être capable de gérer votre truc. Et en fait, Bill lui-même dira « Ah, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est Johanna. » Et Johanna va... Et en fait, le truc, c'est que globalement, tous les deux jours, le mec va se faire balader de mail en mail dans une boîte qui n'existe pas, dans l'objectif... parce que je rappelle que les scams, en fait, ils tiennent sur le fait que ces gens-là finissent par gagner de l'argent sur les millions de mails qu'ils envoient. Et en fait, ils perdent du temps quand ils répondent. Et en fait, l'idée, c'est de faire plonger la rentabilité du scam... parce que les mecs passent leur vie à répondre à des mails qui n'iront nulle part. Et en fait, en tuant la rentabilité du scam, tu tues la rentabilité économique de faire ce genre de scam tout pété. Je trouvais que l'histoire était assez drôle, parce qu'après, ils balancent tous les mails qui sont répondus et tout. Et du coup, c'est assez drôle là. Et du coup, après, quand la personne renvoie un email à Bill, Bill répond un out of office du genre « Je ne travaille plus ici », donc du coup, ça fait la boîte où tous les gens sont virés les uns après les autres. Enfin, voilà. Donc voilà, il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé.
Voilà. Il en faut des héros comme ça.
Moi, ça m'a fait beaucoup rire.
Alors, dans la série, ça a fait beaucoup rire Quentin Adam. Passons au lien suivant. qui est un petit peu le cheval de bataille de Quentin depuis 2013, Docker 0.6, le moment où ça commence à grimper et où t'as plein de gens qui disent voilà, c'est quoi ce vieux wrapper NXC, mais c'est n'importe quoi, ces gens font des bêtises. Et là, c'est un exemple de pourquoi Docker en prod. Voilà, vous m'avez déjà entendu parler de bol de guacamole ou de bol de cacahuète dans les bars et de double dipping. Ben voilà, c'est un exemple de sécu lié à Docker.
Ben là, en fait, c'est au-delà de ça, c'est un de mes chevaux de bataille. Donc c'est un article qui est sur les schémas d'attaque quand on target une image Docker parce que c'est un bout de binaire en vrac sans aucune capacité à visualiser ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui me connaissent, globalement, moi, j'aime pas tellement l'idée de, on colle des binaires, on sait pas trop ce qu'il y a dedans sur des serveurs, les gens les téléchargent, les exécutent en mode tagada youpi, quoi. Moi, j'aime bien quand on file les sources et qu'on les compile, et puis en plus, comme ça, on peut les optimiser pour la bécane pour lesquelles on les compile. Surtout, on peut compiler les morceaux qui nous intéressent et pas les features dont on a rien à foutre. Enfin, il y a plein d'intérêts, en fait, à utiliser des sources plutôt que d'utiliser des binaires. Et Docker, c'est un peu l'idée de, on va foutre tous les binaires dans un zip, faire un nœud dessus et l'envoyer en vrac, et puis, bah, voilà, quoi. Et là, très concrètement, c'est une attaque qui a été attaquée pour faire du crypto-minage sur des serveurs. Et en fait, c'est une attaque où les gens se servent d'une image Redis hyper populaire sur le Docker Hub, qui en fait, cette image Redis, elle contient une backdoor. Et en fait, la backdoor permet de réexécuter n'importe quelle saloperie de conteneur Docker. Et du coup, bah, ils téléchargent une image Docker et se remettent à conteneuriser. Et en fait, ça crée des backdoors. Et donc, en fait, vous pouvez lire le déploiement du problème dessus. Donc là, ça vous donne le SHA-1 d'une image Docker pétée. Et il se trouve que c'est parmi les milliers d'images Docker et les milliers de versions d'images Docker qui traînent sur le Docker Hub. Celle-là a été identifiée comme
c'est
étant
donc
une faille.
Une supply chain attaque.
Ah, mais c'est complètement une supply chain attaque. Mais en fait, le truc, c'est penser que foutre ta supply chain dans une black box et que ça va bien se passer, c'est quand même, enfin, faut quand même pas faire la liaison entre comment on fait une attaque et pas, tu vois. Enfin, et là, du coup, fondamentalement, c'est ça. Et là, c'est une attaque au privileged container, y compris fonctionnel sur un cube, etc. Et du coup, bah, c'est une typologie d'attaque Docker et c'est encore un modèle qui fait que les containers en eux-mêmes, donc là, pas la feature, mais vraiment le modèle d'exécution des containers dans les runtime OCI ou Docker ou whatever, est quand même pas très bien pensé en termes de sécurité, ce qui est un peu ma pensée depuis le début. Au-delà du fait qu'on peut escape d'un container, parce que factuellement, c'est assez pété, là, c'est vraiment sur le modèle en lui-même de container où ça pose un souci. Moi, j'ai un avis très personnel sur faire des zips de binaire, est-ce une bonne idée? Mais vous remarquerez que j'ai un avis relativement similaire sur le point deb, hein. Ou le point RPM. Hein.
Mais tu reviens souvent, hein. On parle souvent de toi à ce niveau-là quand on parle de containers Docker, etc. Et ça, d'image alpine, de le nom de Quentin revient souvent. C'est un fait.
Mais en même temps, si tu veux, j'aurais aimé avoir tort, tu vois. Mais si tu veux, ça m'a fait marrer parce que... Enfin, quand Docker a déployé, j'ai pas compris parce qu'ils ont jamais été chercher l'argent là où il était en tant qu'entreprise, tu vois. Et il y avait plein d'argent à prendre, par exemple, sur le registry en faisant une jolie intégration Active Directory, tu vois.
Qu'ils ont par ailleurs donné à la CNCF la semaine dernière.
Ouais. Enfin, le registry est toujours pas capable de faire ce qu'il aurait dû faire pour gagner beaucoup de sous. Les gens qui ont fait beaucoup de sous là-dessus, c'est Artifactory, tu vois. Enfin, et on parle avec les gens d'Artifactory, la manne du pognon qui est arrivée par Docker, enfin, c'est incroyable, tu vois. Les mecs ont fait tellement de cash. Et en fait, le truc, c'est... on me disait, mais c'est une boîte qui va valoir des milliards. Je disais, genre, je vois toujours pas pourquoi. À la fin, la boîte vaut pas du tout des milliards. Le modèle de runtime est quand même bien pété. Et si tu veux, on reprend des problèmes de fail. Et aujourd'hui, on vient nous voir avec Kubernetes, qui est la grande idée de prendre des conteneurs Docker les uns à côté des autres et avec des fichiers YAML, continuer à orchestrer des binaires. Ce qui est, enfin, tu vois, c'est les packages omnibus en point deb, tu vois, enfin, genre, grande idée encore une fois, tu vois, enfin, c'est quand même pas la première fois qu'on fait ce genre de truc en informatique et où ça chie dans des proportions bibliques, tu vois. Et on se retrouve avec les mêmes théories qui donnent bah, concrètement les mêmes conséquences. Je trouve ça assez amusant, en fait. Enfin, là, tu vois bien où est-ce que ça va finir depuis le début. Quoi.
Et là, Alexandre, tu parlais d'Alpine et Quentin n'a pas encore parlé de Muscle, mais on ne va pas le lancer sur Muscle parce qu'à un moment donné, il faut qu'on avance.
Non,
mais on a eu un mini débat hier aussi. Hein. Il y a, je sais pas, sur Twitter, on a eu une mini discussion sur le Docker en prod. Donc, ça va encore durer quelques années, je pense.
Ouais, ouais. Après, t'as des gens qui sont assez respectés dans le milieu, comme Corey Quinn. Donc, Corey Quinn, c'est le Doug Bill Group. C'est un monsieur dont le seul métier est de faire réduire votre facture Amazon parce que Amazon c'est compliqué. Et il dit Kubernetes, dans 5 ans, on n'en entendra plus parler. Ça, c'était il y a 2 ans. Et effectivement, on entend moins parler. Et puis, tu as les premiers apôtres de Kubernetes qui commencent à être un peu plus... ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Tu vois, Kelsey Hightower, il la ramène un peu moins. Tu vois, le niveau d'excitation est en train de descendre face à la réalité. Face à la réalité.
Mais du, par moi, exemple, je suis perdu.
Ouais, t'es perdu sur quoi ?
Parce que tu vois, j'ai sur ma liste, il y a quand même maîtrisé toutes ces technos, tu vois, parce que l'amour de l'informatique, quoi. Mais j'y arrive plus maintenant. C'est comme si, parce qu'on parle de Kubernetes, donc K8S, K3S, Rancher, et puis vas-y, là c'est pour de l'IoT, là c'est pour quand t'es chez toi, là c'est pour quand t'es en prod, là, etc., etc. J'y arrive plus. Maintenant, le sujet est devenu tellement gros que je pense que il me faudrait vraiment du temps pour pouvoir rentrer de ça parce que déjà, c'est pas ma spécialité. Et puis, j'ai l'impression que plus ça avance, plus les cours d'apprentissage sont devenus compliqués.
Mais c'est parce que c'est by design. C'est pas des softs qui ont été conçus pour t'aider. C'est des softs qui ont été conçus pour te vendre du consulting. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est comme as, tu vois. Ça, tu te prends le mur et t'achètes du consulting.
Indépendamment de ça, t'as la notion de full stack qui revient régulièrement et qui fait rire des tas de gens parce que plus t'es senior et plus tu dis... quand tu vois des juniors qui sortent full stack parce qu'ils ont fait 3 mois de bootcamp, bah, t'es mort de rire parce que full stack, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut que tu comprennes tout ? Bah, là, il faut se lever tôt, quoi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre Kube, il faut comprendre le front, il faut comprendre le back, il faut comprendre l'ops, c'est bizarre full stack, non ?
Ouais, c'est bizarre.
Oui.
Ouais, le succès de ces trucs-là, et c'est ce que tu dis Alexandre, on a beaucoup de curiosité, on a envie de comprendre et maîtriser toutes ces briques-là, même si c'est pas forcément notre périmètre. Et ça tient beaucoup au Hello World Driven Development. Et effectivement, regarde, en 3 coups de cuillère à peau, j'ai orchestré tout un tas de trucs, c'est génial. Mais c'est pas de la prod, c'est juste, t'as lancé un truc.
Moi, je sais que ma position en tant que dev, c'est je veux pas en entendre parler quand on touche à la prod. Donc, si vous êtes capable de mettre des correspondants qui savent en parler et puis qui, sur le papier, ils en sont pas à 2 infra qui ont été lancés sur 6 mois, je vais travailler avec eux comme avec n'importe quelle personne qui travaille côté réseau et puis ops. Mais ne me demandez pas c'est pas parce que j'ai fait un compose en dev et puis même s'il est un peu plus joli que ce qu'on voit d'habitude, que je vais entendre parler de prod pour autant, quoi.
C'est-à-dire que, est-ce que du coup, t'es OK pour être d'astreinte et te réveiller la nuit quand le truc déconne?
Oui, et puis après, il y a ça aussi.
Parce que c'est quand même ça, quoi. J'ai dit, tiens, je t'ai filé une boîte noire. Ah ben, maintenant, l'ops, il fait, tiens, je t'ai filé mon téléphone d'astreinte. Parce que normalement, c'est comme ça que ça va marcher. Anyway, je parlais de Hello World Driven Development et l'article que tu as mis, donc le lien suivant m'a fait beaucoup penser à ça. C'est un article sur les méthodologies de développement globalement et de dire on passe 10% de notre temps à écrire du code métier et 90% du temps, de notre temps à écrire du code à se battre contre l'infra globalement.
C'est ça. Donc en gros, l'article effectivement dit. Parce que on évolue dans un système qui est énormément sollicité et par plein de moyens différents. Grosso modo, il y a 90% du temps de développement qui consiste à se protéger en programmation défensive ou autre pour gérer tous les cas hallucinants qui pourraient nous tomber dessus. Alors que si on utilisait vraiment des choses avec des contrats, des protocoles, etc., etc., peut-être qu'on passerait un peu plus de temps à faire du métier et faire avancer le chimplic. Donc c'est moi j'ai trouvé que c'était une bonne analyse, qu'elle était pertinente, qu'il y avait du recul. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Et je suis plutôt d'accord vu ce que je vois en ce moment en plus.
Viens dans tes activités d'audit.
Oui.
Ouais.
J'en ai bouclé un là, il est beau, il est beau.
Après, sincèrement, c'est aussi pour ça qu'on a des technologies genre de la programmation fonctionnelle avec des types forts. Tu vois, tu fais du Refind dans du Scala, par exemple, ou dans du Haskell, hein, parce que Refind a été inspiré de choses en Haskell. Tu vas récupérer la capacité à avoir une définition très propre de ce que tu devrais avoir comme data. Et une fois que tu as compris comment ça marchait, j'avoue, là, il y a un manque de gratuité à ce niveau-là. En vrai, c'est plutôt pas si mal foutu. Après, je pense que tu vois des technologies comme NOM en Rust te permettent de, encore une fois, de diminuer ta quantité de code défensif parce que c'est le machin qui va s'emmerder à gérer son parsing. Et je pense que c'est un. Je pense qu'aujourd'hui, il faut. Tout comme la sécurité a changé, le parsing a changé. Et le parsing, c'est plus essayer d'aller chercher l'info à l'intérieur, c'est considérer que l'information entrante sera nécessairement un vecteur d'attaque, et soit volontaire, soit involontaire, parce qu'on t'a envoyé de l'info mal formée. Et donc, il faut concevoir son parsing comme étant un modèle pour gérer la défense en profondeur de ton modèle de données et comment tu vas te faire attaquer.
C'est moi, tu vois, je passe un peu pour un hurluberlu vis-à-vis de mes compères parce que je suis extrêmement défensif en défensif et tu vois, par exemple, je considère mon interface qui est en rapport avec l'utilisateur, que ce soit de la ligne de commande ou etc., etc., et puis le reste de mon application est déjà là à ce niveau-là. Par exemple, j'ai une couche défensive qui dit ça me permet plein de choses, ça me permet de vraiment segmenter le boulot, ça me permet de monter des interfaces sans nécessairement avoir du bac derrière, c'est-à-dire que je vais moquer des réponses, etc., etc., et puis je vais pouvoir dérouler très vite. De la même façon, ça me permet de m'assurer que mes données entrantes qui vont être traitées par mon bac, elles suivent nécessairement une nomenclature que j'ai désignée et je suis capable de les traiter de la même façon, donc j'oblige... Il y a toujours le développeur PHP qui peut me dire « je vais aller t'attaquer tes classes directement et puis je te passe ta couche là ». Mais c'est tellement facile à voir au moment où tu fais une revue de code que ça devient une vraie contrainte et ils sont pas contents. Il y a des gens, ils bossent avec moi, ils sont pas très contents à ce niveau-là parce qu'ils me disent « ouais, tu te rends compte, on pourrait faire les choses beaucoup plus simplement en objet alors que toi, tu nous imposes un certain nombre de choses ». Mais en fait, je sais pourquoi je les impose. Je les impose parce que derrière, c'est un contrat, quoi. Donc, et ça me permet de vraiment dire, le protocole pour aller échanger avec telle partie de l'application, il est là, c'est pas autre chose, il est formé de telle façon, il est documenté, je te gère moi-même les retours, les trucs qui peuvent être optionnels, etc., etc. Et je m'engage à te fournir ça. Et par contre, sur le long terme, ça fonctionne, c'est vraiment trop bien. Plus de code, mais c'est super maintenable.
C'est ça, c'est la.
Et on utilise NOM sur deux projets.
Ah ?
En PHP ?
Non, c'est du Rust. Enfin, après, on a du...
Ouais, ça aurait pu être...
Non, non, mais après, on a des libs PHP qui permettent d'interagir avec ce qu'on a fait, ce qu'on a fait derrière. Mais on a deux projets qui utilisent Gnome pour justement traiter de la data et puis s'assurer que les choses sont bien formées de la façon dont on les attend, etc., etc. Parce qu'on essaye de, tu vois, sortir un peu du PHP. Le deuxième amour de Vanois en ce moment, c'est le Rust. C'est pas encore un amour vraiment officiel, mais c'est un amour qui arrive. Et là, par exemple, la semaine dernière, je dois faire un truc et je me suis vraiment demandé si j'allais pas le faire en Rust. Tu vois, c'est donc pour moi qui étais formaté avec du PHP toute ma vie, tu vois. Je suis allé à la Fnac, j'ai acheté un bouquin sur le PHP, je suis devenu développeur. Pour le coup, je suis vraiment en train de changer d'état d'esprit par rapport à tout ça. Et merci Rust, quoi. Donc voilà.
Cool.
Moi, je pense qu'en fait...
Sur le truc pour revenir vite fait sur la partie défense que tu disais, ouais, je peux comprendre pourquoi c'est souvent vu comme beaucoup plus de travail, ouais, que de faire les choses directement de manière propre et pour anticiper, en fait. Mais d'un autre côté, moi, je sais que c'est comme ça aussi que j'essaie de fonctionner, et genre, après, je m'en mords pas les doigts, quoi. C'est le seul truc que j'aime bien, quoi. Donc, ouais.
Quentin ?
Ouais, en fait, pour moi, le point important sur le code défensif, c'est surtout de dire... il ne faut pas oublier un point important, c'est que dans microservice, le terme important, c'est pas micro, c'est service. Et donc, du coup, en fait, quand t'as de la data qui rentre, en fait, considère qu'elle vient de l'extérieur, considère qu'elle est là pour t'attaquer, considère qu'elle est pas propre. Même si c'est toi qui codes les deux services. Enfin, j'avais cette discussion il y a pas très longtemps sur un produit codé avec un développeur qui me disait, oui, mais là, c'est l'API, j'ai pas besoin de rechecker, je sais ce que m'envoie l'API, c'est moi qui la code. Non! Tu recheckes ce que t'envoie l'API. L'API va te mentir. C'est un autre morceau de code. Il t'en veut. Tu n'as aucune garantie de ce qu'il va faire.
Et c'est vraiment ça. Fort de la forteresse.
C'est ça. Mais au-delà de la forteresse, tu vois, c'est genre, tout ce qui n'est pas la même base de code n'est pas la même base de code. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne fais pas de confiance à rien du tout. Et donc c'est pour ça que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec leur article où moi, je me dis que si les mecs, ils passent 90% de leur temps à écrire du code défensif, bah, c'est qu'en fait, ils utilisent des outils de merde pour qualifier leur data, quoi. Parce que théoriquement, aujourd'hui, on commence à avoir des outils un peu propres pour faire ça en 2-3 coups de cuillère à peau. Voilà. Quand je dis des outils de merde, je parlais de libre. Enfin,
voilà. Tu parlais de?
De librairie, tu vois. Qu'ils n'utilisent pas les bonnes libres, si tu préfères. C'était ça mon argument.
Donc, ouais, donc tu peux-t-on faire confiance à l'extérieur?
Ah ouais, bon, on fait jamais.
C'est une transition toute trouvée pour le lien suivant. Peut-on faire confiance à AWS, qui est la personne contributeur extérieur qui vient contribuer à PostgreSQL? Et c'est littéralement la question que pose cet article. Ça s'appelle Babelfish, The Elephant in the Room. Babelfish, c'est le projet d'AWS pour supporter le protocole de Microsoft SQL Server sur Postgres. Et on en a parlé il y a quelques temps, ils ont dit on va tout open sourcer en 2021. Et donc là, tu as un article sur le blog de la PostgreSQL Foundation qui disent bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'état actuel des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et qui pose la question, il n'y a pas de solution. Juste, ils se disent, actuellement, Postgres est en train de monter en popularité. Alors, en popularité absolue, c'est toujours beaucoup moins que MySQL ou Oracle, mais ça grimpe. Ça grimpe et AWS a envie de participer. Et la question, c'est est-ce que ça va forquer? Est-ce que ça ne va pas forquer? Comment on est gentil avec AWS pour modifier Postgres pour que Babelfish, donc le support MSSQL, soit réalisable sous forme d'extension et pas juste sous forme de fork. Et du coup, ils expliquent un peu ce qu'il faudrait faire. Ils parlent de protocol hooks, où en gros, on pourrait hooker de nouveaux protocoles dans Postgres assez facilement, ce qui ouvrirait la porte à le protocole MSSQL. Il y a quelqu'un sur la mailing list qui a dit « Si vous faites ça, moi, je veux bien contribuer le protocole MySQL. » Et du coup, est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on ouvre? Ou est-ce que... Et du coup, AWS fork pas et rentre vraiment dans la communauté? Ou est-ce qu'on le fait pas? Et du coup, il va y avoir un fork et ça craint. Et un autre truc qu'ils mettent en avant, c'est la vieillesse du protocole actuel de Postgres, qui est donc le protocole V3, qui date de 2003. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est hyper compliqué d'avoir deux protocoles en même temps. Bah, actuellement, c'est même pas possible. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont des choix qui ont été faits en 2003 qui ne sont plus nécessairement les choix qu'ils feraient maintenant, ou en tout cas qui casseraient la compat s'il fallait passer à la V4. Et donc, c'est super intéressant parce qu'il y a une to-do, il y a une explication d'un peu tout ce qu'ils voudraient mettre dans le nouveau protocole V4. Et une réponse à cette question-là, éventuellement, ça pourrait être les hooks de protocole pour avoir le protocole V3 et le protocole V4 en même temps. Et donc voilà, ils mettent un peu le c'est un peu un état des lieux de ce qui est possible ou pas. C'est du questionnement. Et du coup, voilà, question ouverte. Faut-il laisser rentrer Alors eux, ils disent the elephant in the room. D'autres diraient le loup dans la bergerie. Comment on fait pour que l'écosystème de Postgres reste cool et vertueux avec plein de boîtes qui contribuent et qu'il n'y ait pas de fork plutôt qu'avec d'autres produits. Et sur un thread Twitter, il y a Lucas Seder qui fait Juke, qui a débarqué et qui a dit « Non, mais on s'en fout, de toute façon, moi, j'ai fait un truc pour faire de la translation de protocole dans Juke. » Donc voilà, faites comme ça. Mais bon. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ?
Pas vraiment. Je sais pas quoi en penser.
Vanois, vous faites beaucoup de Postgres ?
Alors, moi je sais que quand je démarre un projet de zéro, c'est du PG. Donc voilà. Après, la nature même de nos prestats fait qu'on arrive dans un environnement, il est déjà là, et qu'est-ce que tu peux débrancher, qu'est-ce que tu peux pas débrancher, etc. etc. Donc voilà. Mais je considère que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au SQL, étoile SQL, avec PG. Donc voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est par rapport à tout ça, c'est la récente aventure avec Elasticsearch, en fait. Et c'est là où je sais pas quoi penser de ça, parce que concrètement, tu mets Amazon en face de n'importe quoi avec les moyens, ils sont capables d'influencer n'importe quoi, ils ont les budgets, si ça leur plaît pas, ils peuvent forker, comment est-ce que tu arrives à maîtriser un mastodonte comme ça, quoi.
Et effectivement, ils en parlent dans l'article, et ils disent en ce moment, il y a 200 postes élastiques qui sont ouverts chez Amazon. 200 postes engineering élastiques ouverts chez Amazon.
C'est effrayant.
Et ils se posent la même question que toi, c'est-à-dire, enfin, dans le sens où ils n'ont pas apporté de réponse.
Donc, est-ce que ça, c'est un grand retour des espèces de boards avec des fondations et puis on va devoir créer plein de fondations pour pouvoir essayer de mettre un consortium par-dessus ou je sais pas quoi, essayer de cantonner les choses, quoi. Mais
pour être défensif,
moi, c'est ce qui m'embête.
Pour être défensif plutôt que de faire avancer le métier.
Mais, et tu vois, on parlait un petit peu de Symfony tout à l'heure, et quand je disais débat communautaire, on est un peu là-dessus aussi. C'est-à-dire que t'as quand même une boîte qui existe qui a des personnes qui sont capables de travailler 7 heures au minimum par jour pour faire avancer le truc. Donc tu mets en face n'importe quel contributeur open source qui est sur son temps perso à côté, avec sa vie, sur le papier, il a perdu, quoi. S'il n'arrive pas à s'aligner, il a perdu. Donc comment est-ce que tu arrives à maîtriser tout ça ? Et c'est des débats qui reviennent tous les mois ou tous les trimestres au minimum. C'est... vous êtes en train de redévelopper quelque chose qui existe déjà dans la communauté open source. Pourquoi est-ce que vous ne contribuez pas à ça ? Pourquoi vous ne donnez pas des moyens, etc., etc. Et donc, tu as ces deux des lots d'arguments de chaque côté. Les deux sont en opposition. Mais concrètement, à la fin, Symfony est une société qui a des employés qui peuvent se permettre de passer du temps là-dessus et qui vont gagner versus tous les contributeurs open source. Donc voilà. Et si tu n'es pas content, et va faire du Laravel, va faire du Laminas ou autre chose, mais va faire ça en France, nous spécialement, voilà. Non, c'est pas possible, quoi. Ou alors fais ça sur ton temps perso, encore une fois, et donc ça n'avancera jamais. Donc voilà. Mais il y a énormément de choses. C'était toi, Quentin, qui avait expliqué il y a des années en arrière que pourquoi est-ce qu'en PHP on faisait du MySQL et on faisait pas autre chose. Et tu disais, bah oui, mais à l'époque, les seules choses que les développeurs PHP avaient réussi à installer, c'était un MySQL et pas un PG et pas autre chose. Donc, résultat des courses, la communauté PHP est partie dans MySQL. Et c'est aussi des choses qui peuvent se passer, c'est que t'orientes clairement par rapport à tes envies, ce que t'es capable de faire, et tes directions sur le long terme. Et après, les autres, eh ben, s'ils sont pas contents, c'est un peu pareil, quoi. Au détriment de peut-être des choses qui sont fantastiques à côté, quoi.
Moi, j'ai l'impression que Babelfish, alors moi, d'ailleurs, ça me fait plier parce que Amazon, c'est quand même les seuls à annoncer qu'ils vont sortir un projet open source. Alors, c'est quand même des gens, à chaque fois qu'ils vont faire un truc, ils t'annoncent, ils te font un blog post. Et après, t'en entends plus jamais parler, quand même. Enfin, il y a quand même régulièrement des fois où ils ont fait ça. Et après, tu sais, genre, ping time out, tu vois, genre, c'est jamais sorti. Donc, c'est quand même un sujet. Genre, est-ce que Babelfish sera une réalité? C'est quand même, d'abord, enfin, moi, tant que j'ai pas vu le code. Ensuite, moi, je trouve ça toujours très étonnant d'annoncer, on va open sourcer un truc, mais on est tellement sûr que la communauté est incapable de travailler et de produire quelque chose qu'on ne va pas faire le développement en open source. Parce que quand même, enfin, je comprends pas très bien le concept de vouloir faire de l'open source avec un launch.
C'est un concept marketing, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils le font juste après le fuck-up élastique, donc faut mettre ça dans ce contexte-là. C'est un lancement marketing, c'est pour se...
En clair, ils ont commissionné une équipe, ou alors ils ont alloué un budget RH pour aller monter une équipe qui va bosser sur Babelfish. Mais dans l'absolu, ils pourraient imaginer commencer à développer en open. Donc là, il y a quand même déjà un truc en open source qui est chelou dans leur approche de l'open source, qui est de considérer qu'ils vont développer un truc puis l'open sourcer. Et du coup, c'est quoi? C'est l'open source sera suivi, ou c'est une fois de temps en temps vous open sourcez les modifications? Du coup, ça veut dire qu'il y a une version close, une version pas close. Enfin, c'est pas très clair.
Ensuite, ce qui est intéressant, je doute, c'est pourquoi celui-là? Je veux dire, ils avaient le support MongoDB sans MongoDB aussi. Du coup, ils ont choisi d'open sourcer celui de MySQL peut-être pour faire chez Azure plutôt que faire chez Mongo. Parce que Mongo Atlas, ça tourne sur Amazon en particulier, alors que MySQL, c'est surtout Azure. Tu vois, est-ce qu'il y a un peu de ça? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, on va open sourcer ça, mais par contre, le reste, non. En termes de cohérence, c'est chelou.
Ouais, enfin, c'est Amazon, quoi. La cohérence chez Amazon, c'est quand même pas ce qui les étouffe, quoi. Donc, moi, par contre, ce que je vois, c'est que PG, en tant que plateforme, se déploie bien. C'est-à-dire que quand Amazon se demande comment on fait pour avoir un support SQL Server, bah du coup, il se dirige vers PostgreSQL. Il y a une très très belle extension PG qui te permet de travailler des extensions PG en Rust qui existent, qui va permettre de faire croître la communauté. Moi, je trouve que la plateforme PG en tant que telle est en bonne santé. Les gens qui commitent dedans sont plein de boîtes. Pour moi, c'est un vrai code de patrimoine partagé et open source. Je trouve ça vraiment cool parce que Amazon va venir foutre le bordel là-dedans. Pour l'instant, ils font des annonces et on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi.
Et ça, pour l'instant, on ne sait pas et ça fait partie des questions qu'ils posent aussi. Ouais.
Mais je pense que le code sera un truc à côté, ce sera une extension ou un truc, un machin. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient collé du code partout dans le machin pour supporter un protocole.
C'est littéralement le sujet de l'article, en fait. C'est est-ce que c'est un fork? Parce que pour l'instant, tu peux pas le déployer sous forme d'extension, c'est pas possible. T'as besoin du protocole hook pour ça. La question, c'est comment est-ce que ça va être fait? Est-ce que ce sera fait sous forme de fork ou est-ce que ce sera fait intelligemment? Et apparemment, pour le faire intelligemment pour l'instant, ça requiert un certain nombre de modifications. Et donc, ça aurait été bien qu'ils viennent en parler avant, qu'ils soient dans un modèle de développement open source. Alors que là, c'est comme tu dis, on va faire notre truc de notre côté, puis ensuite on va.
Ouais, ou encore une fois, pour l'instant, il y a juste un product market lead, tu vois, qui a écrit un blog post, tu vois, et qui est parti embaucher une team pour bosser dessus, puis rouler jeunesse. C'est quand même Amazon, ils sont parfaitement capables d'avoir balancé un article avec concrètement que dalle de sérieux derrière. Tu vois.
Arnaud, tu avais un truc à dire?
Non, pas spécial. Bah, je voulais juste te dire ce que tu avais dit, je sais plus quoi, mais. Yep. Mais ouais, si la partie extension.
Ouais. Ok, passons au lien suivant. Alexandre, tu veux nous parler de méthodologie de comptage.
Oui, c'est ça. Alors, l'un de mes premiers amours autres que le PHP quand je suis devenu développeur, ça a été la cryptographie asymétrique en paire à paire. Et donc, ça fait des années que on me dit le Bitcoin, gâchis énergétique. Là, récemment, bon, ça s'envole, donc tout revient sur le tapis une nouvelle fois, hein, comme à chaque fois. Voilà. J'ai vu passer par un certain nombre de comptes Twitter une petite image, forcément capture d'écran, le Bitcoin consomme plus que, et je sais plus quel était le pays du moment. Et donc derrière, on a le droit à toutes les réactions qui vont avec. Et à aucun moment, j'ai vu des gens qui parlaient de... Donc la capture d'écran vient du Cambridge Analytics. Et personne ne relaie en fait la page méthodo qui permet de dire voilà la façon dont on calcule les choses. Et notamment, il y a quelque chose qui est important en bas de page, c'est-à-dire que il y a les donc de la même façon qu'une étude, ils disent bah voilà, nous on s'appuie sur telle étude, telle étude, telle étude, telle étude. Et donc on a réajusté certaines métriques, etc., etc. Mais attention, il y a certaines études sur lesquelles on s'appuie qui sont elles-mêmes remises en question par d'autres études ou sur lesquelles on a d'autres chiffres, etc., etc. Et en fait, ce qui m'embête, c'est pas nécessairement de savoir gâchis énergétique ou pas. C'est quoi qu'il arrive, ça consomme de l'énergie. C'est cette espèce d'analyse un peu, qui est complètement biaisée. C'est-à-dire que, au même titre, en tant qu'informaticien, si on est capable de dire, regardez les, quand on vous parle de gâchis énergétique sur les emails, à quel point c'est daubé. Si on est capable de dire, oui, mais regardez les infrastructures d'hébergement, le boulot qu'elles sont en train de faire est formidable pour essayer de prendre ces problèmes à bel corps, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir le même recul sur cette techno qui vit exactement, enfin, qui a exactement les mêmes problématiques de fond, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils dépensent de l'énergie, mais leur but du jeu, c'est d'en dépenser toujours moins pour pouvoir faire plus, etc., etc. Et pourquoi est-ce que, en tant qu'informaticien, on n'est pas capable d'avoir la même prise de recul vis-à-vis des choses et d'aller s'intéresser justement à cette page de méthodologie qui explique voilà comment est-ce qu'on calcule ce gaspillage énergétique. Et voilà. Et en fait, si les gens s'intéressaient, ils comprendraient que bah, de la même façon qu'une infra d'hébergement, quand t'as des gens qui montent une ferme pour aller miner de la transaction, ils vont chercher de l'énergie qui va être pas chère. Cette énergie qui est pas chère, on la trouve pas en France, on la trouve par exemple vers des barrages hydro. Toujours les mêmes schémas, on sait qu'il va y avoir telle région du monde sur laquelle on va avoir une densité de population qui va arriver, donc il faut commencer par installer une centrale électrique, et cette centrale électrique, elle produit de l'électricité, mais il n'y a personne pour la consommer. Donc voilà, et on va aller essayer d'aller chercher cette énergie-là, qui de toute façon va être perdue, puisque personne n'est là encore pour la consommer. Il y a aussi toutes les initiatives de récupération de l'énergie calorique, etc., etc., pour faire quelque chose. En Chine, ce qui se passe, où saison des pluies, on va être sur tel style d'énergie, et puis quand on va être en saison sèche, effectivement, ils vont aller consommer du charbon, etc., mais ça veut dire qu'il y a quand même une période dans l'année où ça bascule. Aux États-Unis, on a des modèles où il y a carrément des moments où ils ont des problèmes d'apport d'énergie, donc les fermes, elles arrêtent de calculer des transactions et elles se servent des apports d'énergie qu'elles ont et elles les revendent sur le réseau classique parce que c'est ce qui leur apporte le plus d'argent. Et donc là, on est sur de l'éolien, du solaire ou ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est moi ce qui m'embête une nouvelle fois sur le fond, c'est que en tant qu'informaticien, si on est capable de lire un article sur envoyer des emails, ça consomme avec des pièces jointes et qu'on est capable de dire oh, c'est un peu du bullshit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes reculs vis-à-vis de choses comme ça. Et globalement, j'ai l'impression que tout ce qui se passe est complètement biaisé. Donc juste avoir cette page méthodo, s'il y a des gens qui arrivent à s'y intéresser, voilà comment c'est fait, et puis je vais aller cliquer sur les articles et tout. Moi, ça me semble être intéressant. Et après, chacun se fait son opinion sur est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile, mais au moins du point de vue cérébral, on évolue un petit peu, quoi. Donc voilà.
Moi, très sincèrement, j'ai un avis très personnel sur toutes les études d'impact carbone. C'est qu'à un moment donné, dans une mesure en science, si t'es pas capable de donner ta marge d'erreur de la mesure, c'est que tu fais pas de mesure. Tu vois. Parce que très sincèrement, quand ta marge d'erreur, elle est entre 1 et 7000, tu vois, de différence, bah, enfin, très sincèrement, ça sert à rien de s'énerver, hein, tu vois, ton erreur, enfin, ton truc est faux, il est faux. Et en fait, la plupart des études soi-disant de conso, bah, en fait, elles s'appuient sur d'autres études, qui s'appuient sur d'autres études, qui s'appuient sur d'autres études. Aucune étude ne file de sa marge d'erreur. Les trois quarts des études sont hyper contestables dans leur approche. Et surtout, à la fin, tu finis avec un chiffre marketing en tonnes de CO2 qui devient en général mais complètement aberrant, parce que les gens ont l'impression que l'utilisation et la conso sont parfaitement liées. Et ça n'a mais tellement aucun sens. C'est un petit peu comme si vous donniez le prix de votre canapé à la minute d'assise sur le canapé. Et que du coup, tu te dises, bah, pour faire baisser le prix de mon canapé, il suffit que je m'assoie moins dessus. Ah non, ton canapé, tu l'as acheté, très concrètement. Si tu t'assois moins sur ton canapé, bah, la minute d'assise sur le canapé va monter en prix, c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça, mais en fait, le prix du canapé va pas bouger. En fait, il y a des tas de choses dans la vie, tu y consommes, point barre. Et notamment la consommation du réseau, qui est le truc le plus mais aberrant qui se passe aujourd'hui. Et tous les trucs de service de mail sont basés sur des consos réseau, mais plus débiles les unes que les autres. Avec, enfin, tu vois, on est dans un pays où il y a 30% des maisons qui sont chauffées par électricité. Il y a quelqu'un qui a essayé de me soutenir qu'un site internet bouffait 0,6% d'électricité française à lui tout seul. Et en fait, il a essayé vraiment de me soutenir ça, tu vois, avec son calcul. C'était genre, enfin, c'est complètement aberrant. Ton site, il fait à peine de l'audience. Jamais de la vie, il va consommer autant d'élec. Enfin, ton calcul est biaisé à tel endroit. Et en fait, aujourd'hui, il y a un énorme problème. C'est, vous avez des gens qui ont envie de faire des choses pour la science en écologie, et je pense que tout le monde autour de la table a envie de le faire. Puis alors, sur la consommation électrique, que ce soit du Bitcoin ou de l'hébergement, vu les factures électriques qu'on se paye dans ces domaines-là, je vais vous dire, on a tous une incentive relativement forte à optimiser notre consommation. Enfin, par contre, arrêtez d'envoyer des sociologues faire des boulots d'ingénieurs, quoi. Genre, un boulot d'ingénieur, c'est un boulot d'ingénieur. Vous voulez réduire de la conso, faites du boulot de conso. Arrêtez de faire des rapports qui n'ont aucun sens. Allez faire des trucs qui consomment moins, en fait. Enfin, on est dans un problème écologique, il faut le régler. Faut pas essayer de le constater et paralyser les gens dans une attitude qui est de dire « Oh mon Dieu, ça consomme tant !» Et du coup, mais allez lire la méthodologie du MIT. Elle est, sincèrement, elle est intéressante. Elle vous dit tous les endroits où, selon eux, leur méthodologie est trouée. Et en fait, tu lis la page et tu te dis, genre, le chiffre qu'on lit à la fin, quand même bien baisé comme chiffre, quoi.
Le seul truc que je trouve intéressant là-dessus, c'est que utiliser de l'intermittent pour ça, après tout, pourquoi pas. Je veux dire, le problème des énergies renouvelables, c'est que c'est souvent de l'intermittent, et c'est clair que pour te chauffer ou pour faire de l'usage domestique, l'intermittent, c'est très compliqué. À la limite, de l'intermittent pour ça, pourquoi pas. Tu vois, moi, c'est le seul truc que j'en ai retiré. Après, pour moi, le Bitcoin, ça reste un gros ponzi dégueulasse qui est mappé sur rien de réel. Donc, ça me rend un peu ouf. La conso. Mais
c'est là où, tu vois, ça, le but du jeu, c'est pas de dire est-ce que le Bitcoin, c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste d'arriver à cette prise de recul. Voilà, on est informaticien, c'est de l'informatique. Il y a de la techno dessous. Il y a des problématiques de base. Essayer de réfléchir un petit peu à comment ça se passe et à prendre un petit peu de recul. Et puis après, s'il y a des gens qui ont réellement envie de s'intéresser, ils trouveront les infos et puis ils se feront une idée très précise qui va dans un sens ou qui va dans un autre. Mais on peut pas se contenter de dire ce truc-là consomme de l'énergie plus que la Finlande, plus que l'Uruguay, plus... Enfin, on a vu toute une liste de pays comme ça. À ce moment-là, commencer à gueuler, quoi. Il y a combien d'informaticiens qui ont une PlayStation? La totalité de la conso du réseau PlayStation et PlayStation Network, il est plus que quel pays? Et quand on met PS3 plus PS4 plus PS5, et puis on rajoute les Xbox et tout, enfin, on peut tout prendre comme ça, en fait. Et à chaque fois, ça va être les mêmes arguments qui vont être biaisés, c'est-à-dire que on va prendre un chiffre à un moment qu'on va essayer de calculer, on va extrapoler le chiffre à un niveau qui va nous sembler à peu près correct, et puis on va garder cette étude de base, ce truc, et puis après, les autres études, elles arrivent par-dessus, et elles reprennent l'étude de base, elles la considèrent comme fiable, elle n'est absolument pas remise en question, et je te refais une étude par-dessus, je te refais une étude par-dessus, je te refais une étude par-dessus. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, on a la chance, on a cette superbe page qui existe. Il y en a même deux méthodos. Elle est complètement documentée, quoi. Donc, indépendamment du Bitcoin, j'invite les personnes à aller lire cette page. Et puis, peut-être que ça leur permettra aussi d'avancer sur le débat du mail et puis le débat de l'hébergement, de manière globale.
Ouais. Et de manière générale, encore une fois, sur l'énergie, à un moment donné, les unités qu'on emploie pour parler du transport et du chauffage sont pas les mêmes que celles qu'on emploie pour votre baraque. Vous prenez tout l'équipement de votre baraque en électrique, comparé à le chauffage électrique ou son équivalent thermique, c'est ridicule, en fait. Enfin, c'est juste ridicule, c'est pas les mêmes unités, tellement ça n'a rien à voir. Et je vous parle même pas de votre voiture, tellement c'est des magnitudes de différence, en fait. Et du coup, vous voulez réellement aider la planète ? Votre meilleure urgence, c'est de prendre une carte d'abonnement à Leroy Merlin et de refaire l'isolation de votre baraque. Enfin, sincèrement, foutez-nous la paix avec vos conceptions d'éco-conception. Vous ne comprenez à rien à comment fonctionne un network.
Tu parles, là ?
Ah, mais si tu savais le nombre de designers qui me prennent la tête...
Vous ne comprenez
mais qui
rien,
me c'est... prennent la tête aujourd'hui. Mais
explique un peu à qui tu parles. Explique que t'es parti en croisade contre les anti-5G à Nantes et que c'est que régulièrement tu te tapes des gens qui ont un prisme, un biais.
Parlons du débat de la 5G à Nantes.
Ne sont pas ingénieurs et parce qu'ils ne sont pas techniques. Et du coup, il y a forcément.
Par exemple, j'ai pas de diplôme d'ingénieur, tu vois. J'ai pas besoin que les gens soient ingénieurs. Il y a un moment, c'est une posture intellectuelle d'être un ingénieur, tu vois. Et fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Là, par exemple, à Nantes, je suis dans un conseil sur la 5G. Il y a 30 gus dans le conseil. Il y a un ingénieur télécom. Et le reste, tout le tour du cul, tu vas avoir du consultant en transition, du sociologue, du poète. T'as tout ce que tu veux de gens en train de délirer sur des trucs qui n'ont aucune consistance. Les termes de biologie quantique ont été évolués, tu vois. Enfin, genre, biologie quantique, tu vois. C'est genre, mais de quoi parle-t-on, tu vois? Et par contre, t'as des rapports écrits par des designers. Enfin, c'est-à-dire, le mec, son boulot, c'est de faire dessiner des icônes qui nous expliquent comment moins consommer sur le réseau. Ça n'a aucun sens. Mais les gars, allez isoler votre baraque et foutez-nous la paix. Enfin, on a fait l'absence de consommation du réseau. C'est le drame de Clever Cloud full time. Mais du coup, la façon dont on le fait, ça n'a rien à voir avec du chamanisme. Quand on enlève de la conso dans le network, on le fait pour de bonnes raisons et surtout foutez la paix à vos mails parce que je vais vous annoncer un truc, supprimer de la data dans un gros cluster est largement plus compliqué que d'en rajouter. Et en fait, les trois quarts du temps, quand on supprime de la data dans un cluster, on ne va pas récupérer les secteurs du disque parce que la quantité d'énergie qu'il faut pour défragmenter le disque nous coûte tellement plus cher que les 3 kilos, la compaction, enfin, mais renseignez-vous sur la compaction dans n'importe quel système NoSQL.
Bref, c'est compliqué. Et il y a un débat de société. C'est un débat de société. Il y a des gens qui veulent voir ça d'un prisme société et d'autres d'un prisme technique. Et donc, tu as tous les gens qui ont le prisme technique qui disent, comme Quentin, c'est scandaleux, vous comprenez rien. Et les gens qui disent oui, mais on s'en fout. C'est un problème de société et du coup il y a un dialogue de sourds qui se met en place sur ces trucs là et ce qui énerve tout le monde des deux côtés
mais néanmoins
mais tu
la règle
sens quand Quentin, il est animé par des débats comme ça parce que et à l'écrit ça sent encore plus quand il y a un truc qui prend à cœur parce que ça part vraiment et c'est magnifique
mais les mecs sont pénibles mais en fait juste il y a un truc simple. Si on fait une mesure et qu'on peut pas dire quel est le taux d'erreur de la mesure, c'est pas une mesure. C'est simple, en fait. Enfin, en science, il y a un truc qui est simple. Vous le trouverez dans tous les trucs. Une norme ISO, par exemple, quand tu fais 9001 et que tu dois faire de la qualité, en bout de chaîne, tu es censé mettre un capteur qui testent ce que tu as produit comme produit, et tu dois noter quel est le pourcentage d'erreur du capteur et à quel moment tu réétalonnes le capteur. Parce qu'en fait, si tu fais une mesure et que tu ne sais pas quel est ton taux d'erreur de mesure, bah tu fais pas une mesure, tu vois.
C'est comme les sondages sur un échantillon représentatif de deux personnes.
C'est ça, ça n'a pas de sens en fait. C'est juste, ça n'a pas de sens.
Coupons court à tout ceci et passons au lien suivant. C'est un chemin pour expliquer comment quelqu'un a découvert un bug vieux de 24 ans dans le kernel Linux. Et c'est un lien de Arnaud Lefebvre.
Yes, alors on change complètement de sujet. Hein.
J'ai pas essayé de transitionner quoi que ce soit là.
Ça aurait été compliqué. Ouais, du coup, c'est une personne qui s'est penchée sur un bug qu'ils avaient depuis plusieurs années dans son entreprise. Globalement, ils avaient un serveur central a priori qui en fait était un serveur de backup qui s'occupait d'aller rsync, qui était le serveur qui recevait des rsync de différents autres serveurs. Et de temps à autre, un des rsync s'arrêtait, ne faisait plus rien, quoi. Donc le backup ne se faisait pas et c'était un peu embêtant forcément. Surtout que les données, on parlait de plusieurs centaines de gigas de données à backup. Alors autant parfois le problème arrivait de temps en temps et du coup ils disaient c'est peut-être un bug dans rsync et puis voilà, on verra ça plus tard quand on aura le temps. Autant au bout d'un moment en fait c'est arrivé, ça commençait à apparaître en fait quasiment tous les jours. Donc ça devient vraiment embêtant. Et du coup la personne s'est penchée sur le sujet. Ce qu'il a découvert en fait c'est en résulte en fait d'un bug qui se trouve dans le kernel Linux depuis 1996. Donc ça remonte, quoi. Ce qu'il a vu en fait c'est que globalement chacun en fait du client et du serveur en fait attendait que l'autre fasse quelque chose. Globalement le client qui donc lui envoyait la donnée voulait envoyer de la donnée et le serveur lui voulait la en recevoir. Du coup c'est paradoxal puisque rien ne se passait en fait, il n'y avait pas de données qui était envoyées sur le réseau. Et en fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que le serveur, quand il recevait de la donnée, vu qu'il la recevait de plusieurs machines, il était surchargé. Parce que le disque était probablement la ressource bloquante. Le disque devait suivre un peu moins que ce que le réseau pouvait lui envoyer. Et donc, dans ce cas-là, en fait, la machine serveur disait au client, vas-y, arrête de m'envoyer de la donnée. Donc ça, c'est globalement le rôle en fait, de la TCP window dans le protocole TCP. Qui est en fait une indication d'un hôte à un autre qui dit là tu peux m'envoyer tant de données, j'ai tant de place dans mon buffer, etc. et je peux en traiter tant, quoi. Et au fur et à mesure du transfert, soit ça augmente si jamais le serveur qui reçoit la donnée la process, on va dire, de manière plus rapide que ce qu'il reçoit, du coup il augmente sa window. Si jamais il met trop de temps à la traiter, il la diminue. Et si jamais il peut plus du tout la traiter parce que imaginons la queue d'attente dans l'écriture disque est trop longue, il dit arrête de m'envoyer de la donnée, quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que à cause d'un problème en effet cette window en fait restait à zéro et malgré que le serveur la réémette au client vas-y envoie-moi de la donnée, en fait le client ignorait en fait cette update puisqu'a priori, alors vous pourrez aller lire les détails qui sont un peu trop compliqué, je pense, à expliquer à l'oral. Mais a priori, en fait, comme rsync, qui est un protocole qui envoie énormément de données sans jamais vraiment lire de la donnée sur le réseau avant plusieurs gigaoctets, parfois même, il y a eu en fait un petit décalage comme ça dans les compteurs du réseau du kernel, ce qui fait que au bout d'un moment, en fait, toutes les TCP windows reçues par le client de la part du serveur étaient ignorées, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, on se retrouvait dans ce cas un peu chelou, quoi. Donc c'est au final c'est un problème assez marrant parce que quelque part un problème de 24 ans sur la stack TCP du kernel qui est quand même utilisé, enfin du kernel Linux qui est quand même utilisé sur des millions voire milliards de devices, c'est quand même assez ouf. On peut encore trouver des bugs aujourd'hui dans le kernel et celui-ci a été corrigé dans la 5.10 après quelques heures de report. Donc voilà.
Classe.
Et la procédure honnêtement pour débugger le tout est vraiment sympa. Ça, la personne a créé un hook qu'il a directement mis dans le kernel en mode hot patch. En fait, je savais pas que c'était possible. Mais a priori, c'est vraiment fun à faire. Quoi.
C'est vraiment bien expliqué le cheminement vers ce truc-là. En fait, c'est ça qui est vraiment chouette dans cet article.
Yes.
Alexandre Quentin, un avis là-dessus ou on passe à la suite? On passe à la suite.
Je n'ai pas d'avis.
Passons à la suite. Nous allons commencer à parler des nouvelles sorties ou des sorties de la semaine. Et on va commencer par le site PHP Watch. Et on va parler de PHP 8.1. Alexandre, PHP 8.1.
Eh oui, je fais du PHP.
Nous aussi, mais on n'en a pas trop en prod, je crois. Si.
Bah, on en a beaucoup en prod pour des clients.
Alors, on a beaucoup en prod pour des clients. On a quelques outils à nous, enfin que nous on utilise, mais notamment notre gestionnaire d'assets.
Moi, j'en ai fait beaucoup du PHP.
Je pense que dans la boîte, bon, il y a énormément de gens qui en ont fait. Ouais. Il n'y a aucun souci.
Mais donc du coup, PHP Watch permet de suivre en fait, et ben tout simplement ce qui va se passer au fur et à mesure des versions, et puis avoir un descriptif complet de bah voilà telle version de PHP, on est sur tel ajout, ça fonctionne comme ça, etc., etc. Actuellement, l'écosystème travaille sur PHP 8.1. Donc, on a comme info les RFC qui ont des chances d'arriver suivant les upvotes et tout. Et en l'occurrence, là, on a quelque chose qui va arriver, c'est le support des enums en PHP qui s'est revenu régulièrement sur le tapis. Hein. C'est pas la première tentative autour de ça. Mais là, a priori, ça se passerait bien. Et donc, on a une jolie explication de ces enums. Comment est-ce que ça va marcher, les syntaxes, etc., etc. Donc voilà.
PHP Watch est un site hyper bien fait, c'est un peu comme Kernel Newbie, ça vous explique un peu tout ce qui, de façon compréhensive, un peu tout ce qui va arriver.
Ouais, c'est vraiment sympa. Et, alors juste une question sur cette histoire. Là, je vois que la 8.1 elle est prévue pour fin 2021, a priori. Mm-hmm. Et en fait, ils sortent une version alors mineure tous les ans. C'est vrai que c'était plus soutenu que ça, quand même.
Non, mais les cycles ont changé suivant les... mais oui, on est là-dessus.
Ok.
Et ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un langage, tu vois, qui de plus en plus va vers du strict, vers du recoller aux autres, essayer de prendre les bonnes idées et tout.
Ouais, ça, c'est vrai.
Et après, bon, il y a quelque chose qui fait un peu rigoler, c'est que... En 8.0, on a les attributs qui sont arrivés en PHP. Mais bon, quand tu compares un attribut PHP à un attribut en Rust, parce que du coup, voilà, j'arrive à faire la comparaison maintenant, c'est quand même pas la même chose. Mais voilà, on a un langage qui avance gentiment comme ça, et qui devient de plus en plus sérieux, même si il a toujours ses travers, et qu'on arrive toujours à changer des visibilités de méthode assez facilement. et puis tout ce qui va avec quoi.
J'imagine qu'il y a pas mal d'efforts pour faire de la compat, pour garder de la compat, et du coup c'est pas évident de tout péter et dire ça y est maintenant PHP c'est ça et...
C'est ça, et puis après t'as les gens aussi qui vont dire non mais moi je suis désolé, quand je veux faire un truc qui est sérieux en fait je ne fais pas de PHP. Tu vois, t'as aussi ce raisonnement de base. Donc moi quand je fais du PHP je fais effectivement du code qui est un peu dégueulasse. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je ferai toujours du code dégueulasse quand je fais du PHP. Et il y a des gens qui ont des positions comme ça, qui ont elles-mêmes été assez moteurs dans la communauté PHP. Hein. Donc c'est voilà, t'as un langage qui évolue et puis qui devient un peu, t'as quelques clivages qui arrivent comme ça. Mais personnellement, je trouve que ça va dans le bon sens parce que moi, ça me plaît, quoi. Et après, justement, je me posais la question par rapport à vous. Est-ce que, là, comme ça, un PHP 8.0, est-ce que vous avez des... vous avez, tu vois, côté infra, quel est votre ressenti par rapport à tout ça, en fait?
Et nous, on a une...
C'est aussi pour ça que j'ai mis ce lien.
De streamliner la stack où avant, on utilisait un peu tout ce qui se faisait. Là, on est plus sur une volonté de streamliner un peu tout ce qu'on fait. on est plus parti sur JVM Rust que sur autre chose.
Oui, ça c'est plus lié à nos besoins. Nous en interne, nos besoins c'est quand même nos API, elles font de la big data les trois quarts du temps, donc en fait elles sont en JVM parce que JVM, big data c'est logique. Et après nos low level, ils sont codés en Rust parce qu'on n'a pas envie de faire du C, quoi. Donc ça c'est assez logique. Après on a deux trois autres trucs qui existent, mais en fait les use cases typiques de PHP on les a pas tellement nous en interne, c'est ça le sujet. Après 8 et 8 points en prod, c'est plutôt assez agréable. PHP était très gourmand dans la version 5. La version 7 a quand même beaucoup amélioré la situation. Et clairement, entre le fait que Composer se généralise et le fait que la perf du truc soit de bien meilleure qualité, je trouve que le PHP est de plus en plus stable. Et je tiens quand même à nous mettre en défaut, Laurent, notre nouveau site est intégralement en PHP.
C'est vrai, j'avais omis ce détail.
Il n'est pas lancé, mais le prochain site de Clever...
Le futur site
est...
institutionnel sera en PHP.
Il est intégralement en PHP.
Alors, on utilise Bedrock, c'est des trucs assez cool, hein, mais...
C'est un WordPress. Mais du coup, on code en PHP, parce que littéralement, on fait des petites extensions PHP avec Clément. Donc,
mais ce qui est intéressant, c'est que si on doit faire du PHP par rapport au use case de PHP et par rapport à la position de Clever sur le développement, c'est probablement pas nous qui allons le coder. Et on le fera probablement coder par d'autres gens parce que nous on fait autre chose et les stacks, en tout cas le niveau auquel ça s'adresse, a priori ce sera pas nous, quoi.
Ouais, si là il y a des trucs, on est parti pour se palucher nous-mêmes les extensions. Mais après, enfin franchement c'est un langage qui est quand même très facile à écrire. Le seul truc c'est la syntaxe qui est un peu, et quand je regarde les évolutions du 8.1, là c'est pareil, c'est tu sens. Il y a ces fameuses idées dans la syntaxe de PHP où ils sont partis tout seuls dans leur coin à donner des symboliques à certains symboles, et du coup, dans toute l'évolution du truc, ça fait chier tout le monde. Voilà. Après, les énums, en vrai, ils sont écrits, ils auraient pu être faits dans n'importe quel langage. T'as juste cette notion d'appartenance avec le double deux points qui est un peu surprenante, mais c'est pas la seule langage qui est dessus, donc je trouve que c'est cool. Moi, je trouve que les énums dans PHP, c'est une bonne nouvelle. Après, dans les grandes notions qu'il y a dans 8.1, c'est le support de DNS over HTTP S, qui est une vraie bonne extension. Le fait qu'on continue à rendre des objets dans tout ce qui est connexion, donc avec les GD, les FTP, les IMAP, etc., les file info, enfin tout ça. Et t'as des évolutions de comparaison de versions aussi qu'il était temps d'arriver, mais ça c'est logique que ça arrive en fait. Enfin, mais t'as pas de gros changements, c'est les énums en PHP, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Quoi. Mais tout ça c'est l'impact du functional programming qui arrive progressivement sur l'ensemble des langages, y compris PHP.
Voilà, vous pouvez googler PHPZ sur GitHub pour parler de PHP et de fonctionnel.
Ouais. Certains ne seront pas d'accord.
Some will disagree. On reste.
Par contre, pour répondre à ta question, Alexandre, on constate effectivement une baisse de conso des applications quand elles passent en PHP 8. Elles sont plus efficaces. On pourrait essayer de sortir un rapport là-dessus. J'essaie de me noter ça.
Un rapport énergétique sur la consommation des applications chez Clever?
Non, par rapport énergétique, un rapport de perf. Tu vois, sur une moyenne d'application de quelques milliers, ça pourrait être intéressant, je pense.
Indeed. Ça fait 1h23, il faut qu'on avance. On passe au lien suivant, et c'est la sortie de OpenAPI, qui est une spécification. Et donc, on a la version 3.1.0 de la spec OpenAPI. Quelques petites choses nouvelles, notamment la compat avec les JSON schema. En fait, au début, il y avait une loose compatibility, c'était vraiment un peu compatible avec une vieille version de JSON schema, mais pas complètement. Là, ils visent la compat avec JSON schema 2020-12, donc la dernière.
Qui est toujours un draft. Dernière,
style, mais bon, c'est un peu utilisé par tout le monde dans ce secteur-là. Ça donne globalement une notion de type compatible, c'était pas le cas avant, et surtout ça apporte le type nul qui était pas supporté, qui est dans JSON schema, mais qui était pas supporté par OpenAPI. Ça, c'est plutôt cool. Et en en version 3.0 de la spec OpenAPI, il y avait les callbacks et maintenant il y a les webhooks qui sont spécifiés. Donc on peut spécifier un webhook maintenant en OpenAPI, ce qui est assez cool. Ça a été porté par une développeuse qui s'appelle Lorna Mitchell, qui est évangéliste chez Haven, qui était chez Nexmo avant. Et tout ce que fait Nexmo en termes de génération de SDK OpenAPI, c'est vraiment intéressant, c'est très documenté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Et c'est elle, en fait, qui a porté cette spec-là. Et elle a fait plusieurs talks qui expliquent un peu comment c'est facile de contribuer, de porter, d'améliorer la situation ou la spec OpenAPI. Et pour montrer que c'est plutôt open. Voilà. Donc, l'avantage avec cette histoire de webhook, c'est que c'est ajouté un peu de composabilité au fichier OpenAPI, où avant, tu pouvais avoir que des passes et c'était des passes et point barre qui définissaient avec un verbe, donc slash bidule slash truc. Maintenant, tu as une notion de soit des passes, soit des webhooks, soit components. Et du coup, ça rend le truc un peu plus componentisable, ce qui est une bonne chose de mon point de vue.
C'est clairement,
si vous avez eu le temps de regarder.
Bah, je trouve que ce qui est génial, c'est que clairement, il manquait une spec pour définir les webhooks, qui était une espèce de flou de comment on va le définir.
Il n'y a jamais eu de spec, ouais.
Et bah, c'était très bien d'avoir fill the gap dans le truc. Je trouve qu'aller le coller dans OpenAPI, ça a une certaine logique. Donc, moi, ma grande crainte, c'était que quelqu'un sorte une webhook specification out of the blue, tu vois, un truc tout seul dans son coin. Là, au moins, c'est tout ça est dans l'API, je trouve ça propre.
C'était un peu l'état, tu avais beaucoup... Alors, en OpenAPI, tu peux faire des extensions custom qui commencent par x-quelque chose et tu avais plein de x-webhook dans les fichiers OpenAPI de plein de gens. Donc, c'était un peu plus ou moins le cas avant et maintenant, c'est ça y est, ça. C'est spécifié, quoi. Ils en ont profité pour réserver un certain nombre d'extensions. Maintenant, tu as XOA, X, je ne sais plus quoi. Enfin bref, ils ont réservé des extensions custom pour la team OpenAPI et l'aspect OpenAPI.
Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on est parti pour se coller la mise à jour de chez Clever Cloud, quoi. Parce que du coup, notre truc n'est plus à jour.
C'est la mise à jour de l'aspect. Je n'ai pas regardé si les outils autour de l'aspect avaient été mis à jour. Il faudra qu'on jette un œil, mais ça ne change pas énormément de choses. Et la compate avec l'existant est toujours maintenue, ce qui fait que, par exemple, quand tu définis un schéma, tu peux l'écrire schéma avec ou sans S. Ou tu peux écrire example et examples. Voilà. T'as encore la compate pour l'instant.
VanWax, une approche sur les OpenAPI ou vous n'utilisez pas?
Moi, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup parce que ce qui me plaît le plus, c'est cette idée de je vais décrire un schéma, je vais générer un client, je vais générer un serveur, et ça va me permettre de poker très, très rapidement avec un truc qui va tenir la route, parce qu'à partir du moment où je rajoute toute une stack de tests sur la base de ce fichier OpenAPI de description, si je satisfais au fur et à mesure du temps, ben c'est cool, quoi. C'est le retour de l'animé. Donc moi j'aime beaucoup. Et après j'essaye de me battre aussi avec des éditeurs avec lesquels on bosse en leur disant mais fournissez-nous des API qui sont documentés suivant cette spec, etc. Parce que vous vous rendez pas compte de la facilité qu'on pourrait avoir derrière à développer par-dessus. Ça tient quand même de votre responsabilité de s'assurer qu'on échange correctement avec votre système d'information. Donc, embrassez-moi tout ça et puis foncez dedans, quoi. Donc moi perso, c'est un truc que j'aime beaucoup.
Right.
Et après, on a API Platform dans l'écosystème PHP qui est moteur à ce niveau-là, c'est-à-dire que je sais, vous connaissez?
Comment tu dis?
API Platform.
Ouais, moi je connais bien. Ouais.
Donc c'est fait par les copains des Tilleuls qui sont majoritairement et historiquement à Lille. Et en fait, Kevin, qui est un élément moteur là-dessus, a travaillé là-dessus. Ça a énormément amélioré Symfony au niveau des composants de sérialisation et désérialisation, tout ce qu'on pouvait faire. Et grosso modo, à partir d'un fichier OpenAPI ou dans l'autre sens, à partir de... la base de données, parce que Symfony est énormément drivée par la base de données, on va pouvoir justement exposer un truc OpenAPI et puis qui va supporter nativement à peu près tout ce qu'on trouve. Donc tu veux du JSON LD, tu veux échanger en Hydra, tu veux échanger plein de trucs, ou même des trucs tout bêtes, envoyer du CSV, ben API Platform va pouvoir te gérer tout ça à coup de composants de sérialisation, désérialisation et tout. Donc c'est super intéressant, enfin c'est moteur par rapport à tout ça dans l'écosystème. Et c'est un peu une référence en termes de, enfin perso, je n'utilise pas API Platform, mais je considère que si je rentre là-dedans, il faut au moins que je délivre la même qualité en format de sortie. Donc une Open API qui tient la route et voilà. Poli poilou.
C'est REST et GraphQL Framework qui vient de faire le GraphQL.
On t'entend pas, Laurent, faut que tu te rapproches de ton micro.
C'est du REST et du GraphQL, hein. Donc je vais dire que c'est le GraphQL et c'est
Benoît, pas du tout. Non, c'est toi qu'on. Il y a une sorcellerie avec ton micro là.
Ouais. Je ne sais pas.
Ah, c'est mieux là. Ok.
Right, je demandais si tu faisais du GraphQL, mais peut-être que tu fais pas de GraphQL.
Non, je n'en fais pas. Parce je n'en fais pas.
C'est un des trucs qui est mis en avant sur API Platform.
Oui, mais en fait, à côté de ça, tu as aussi HTTP 2, HTTP 3, etc. etc. Donc, versus le GraphQL, comment ça se passe. Kevin lui-même, il bosse sur d'autres protocoles. Il y a Mercure, Vulkan, qui permettent de faire des choses qui sont un peu formidables. Et ça fonctionne pas trop avec GraphQL. Donc, après, il faut savoir choisir ses... son cheval, hein, pour l'investissement long terme, et pour l'instant, moi, je reste sur HTTP 2, HTTP 3, et puis, etc., et GraphQL, bah, c'est à côté, quoi.
Donc, okay. Voilà. Autre nouveauté, le support de Russell dans Curl, italien d'Arnaud Lefebvre. Russell, ou Rusteles, mais c'est prononcé Russell.
Yes. Curl qui du coup, alors qu'est-ce que Russell? Du coup c'est une librairie pour faire du TLS mais écrite en Rust. Si vous connaissez OpenSSL, c'est globalement la même idée. Hein.
Bah, et, sans les bugs.
Ouais, voilà, sans les bugs, écrit en Rust et sans toutes les peut-être 30 000 features aussi qu'il y a OpenSSL. Le Curl en fait est déjà compatible avec plusieurs backends TLS et ils en supportent pas mal. Hein. Je crois qu'ils en supportent. Ouais, c'est, avec l'ajout de RestLS, là, c'est le 14e backend TLS qui supporte. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Mais du coup, maintenant, il vous est possible de compiler, en fait, curl. Alors, je crois que c'est que depuis master ou un truc du style. C'est pas entièrement dans une release, il me semble. Mais vous pouvez compiler curl avec le support RestLS pour faire vos appels TLS si vous le souhaitez, quoi. Donc, tout ce qui est HTTPS, peut-être FTPS aussi, je suppose, ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est un peu plus de Rust dans un univers un peu C ici-là, quoi, en attendant Hype.
En attendant une réécriture de curl en Rust.
Je crois pas que ça arrivera, parce qu'il faut quand même qu'ils gardent API et ABI, donc c'est un peu compliqué, mais honnêtement, ils font en sorte d'intégrer un peu de Rust ici et là dans ce qui est possible. Hein. Il y a eu aussi, là, on avait déjà parlé, je crois, mais... remplacer un petit bout de curl par Hyper, écrit en Rust également, ce qui est une librairie pour faire du HTTP. Donc voilà, ce sera un des backends possibles, je suppose.
Yes. On rappelle que Sozu peut aussi changer à la volée de backend TLS. C'est le shameless plug du podcast. Passons au dernier lien. C'est un outil qui s'appelle 22120, ou peut-être que c'est One. C'est peut-être 22120, je ne sais pas comment on prononce ça. Bref, Quentin Adam, your browsing history as a self-browsable internet offline.
Ouais, j'ai trouvé que c'était assez amusant. En fait, l'idée, c'est de dire que tu utilises le debugging port de Chromium, qui va envoyer en data un démon en local sur ta bécane tout ton historique de browsing, et en fait là lui il télécharge tout en recurring curl, et en fait du coup tu te crées ta propre archive d'internet, puisque du coup tout ton passé dans internet se retrouve à l'intérieur de ce démon là que tu peux ensuite requêter pour avoir ta propre archive d'internet de ce que t'as visité en local. Je trouvais que le hack autour du truc était assez amusant, autour du debugging port du truc. J'ai trouvé ça amusant. Ils sont en train de réfléchir à comment ils vont le rendre compatible avec Firefox. Et j'ai trouvé que l'idée d'avoir ta propre copie de ce que tu as visité par Internet et donc ta vue d'Internet, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. Ça m'a fait marrer. Voilà. Donc, c'était le petit tool que j'avais envie de vous donner.
Est-ce qu'il est prévu de mettre tout ça sur IPFS après, quoi ?
Alors, déconne pas, mais je crois qu'il y a un petit tool. C'est ça. L'idée, c'est de dire qu'un jour, tu pourrais décider dans... Donc, c'est là dans la roadmap du tools, d'avoir la capacité de faire, du coup, une archive distribuée de tout Internet, comme archive.org, ouais. Et que l'idée, ce serait de mettre le serveur de librairie public dans un distributed P2P browser au-dessus d'IPFS. Donc, très littéralement, ça fait partie de la roadmap du bordel.
C'est pas étonnant, ok. C'est
cool. Voilà. Et j'ai trouvé ça marrant. Voilà.
Right. Ça fait une heure et demie qu'on se cause. Alexandre, le mot de la fin, ou en tout cas le son de la fin, est-ce que tu veux nous dire quelque chose de particulier, ou est-ce que tu veux nous expliquer quel magnifique morceau tu as choisi pour finir ce podcast?
J'ai choisi de revenir en arrière au niveau musical et de rendre hommage à quelqu'un qui est décédé hier, du coup. Et vous vous souvenez tous de Un Indien dans la ville.
Magnifique film. Donc, voilà. Thierry Lhermitte, sorti en 1996.
C'est ça. Et donc, c'est Tonton David. Chacun sa route. Donc, voilà.
C'est beau.
Bah oui, moi j'aime bien faire ça.
Le clip est un drame cinématographique.
Oui, par contre,
c'est clair.
Ça, c'est spécial.
C'est assez marqué, en fait, temporellement.
Mais voilà. Après, je sais pas, ça fait peut-être très vieux con de sortir ça, parce que c'est plutôt jeune, quand même, mine de rien, maintenant.
RIP, Tonton David. Bah, je sais pas, Arnaud, toi, tu connaissais ? Est-ce qu'en 96, t'étais peut-être plus jeune que nous ? Enfin, sûrement, d'ailleurs.
Je connaissais pas le clip. Ouais, je connaissais pas le clip, mais je connais la musique. Ouais.
Donc, voilà.
Eh bien, écoute, merci infiniment d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et à vous trois d'avoir participé. Et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Merci à vous.
À plus.
Ciao. À 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct. Tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin.